Et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontre. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui à Portrait Vivant, nous poursuivrons notre exploration du thème de la communauté. Après avoir abordé dans notre dernier épisode ce qui définit une communauté et les façons dont elle rassemble une génération, nous nous tournons vers ceux et celles qui en sont souvent le moteur discret, les bénévoles. L'École d'art de Sutton, à l'image de nombreux organismes à but non lucratif, s'appuie sur l'implication généreuse et engagée de bénévoles, qui constituent véritablement les piliers de ses actions et de son rayonnement dans la région. Grâce à leur temps, leur énergie et leur dévouement, le Centre d'art est en mesure d'offrir à la communauté des services exceptionnels et des expériences enrichissantes. Dans cet épisode, nous irons à la rencontre de différents bénévoles dont l'engagement a marqué non seulement l'École d'art de Sutton, mais aussi la vie culturelle et communautaire du village de Sutton. Pour débuter, nous accueillerons Roger Gervais, une figure bien connue à Sutton, car il est fortement impliqué auprès de nombreuses organisations locales et particulièrement actif dans son soutien à l'École d'art. Bienvenue, Roger.
Bonjour, je m'appelle Roger Gervais. Je suis de la communauté de Sutton depuis plus de 25 ans, impliqué dans divers organismes. J'aime beaucoup la municipalité, j'aime beaucoup ce qui se passe à Sutton. C'est une ville que j'adore, on y vit, c'est très agréable. Les citoyens sont super gentils, c'est de plus en plus mélangé comme citoyenneté. À l'époque, c'était surtout moitié français, moitié anglais. Maintenant, c'est rendu avec plusieurs personnes d'un peu partout qui vient enrichir notre belle communauté.
Bienvenue, et tu es tellement un pilier important de l'École d'art de Sutton et on est tellement content de t'avoir avec nous sur l'émission. Comment est-ce que tu t'impliques au cœur de l'École d'art de Sutton?
Dès les départs de l'École d'art à sa location actuelle, j'ai été impliqué. J'ai visité ce bâtiment pour la première fois quelques jours après l'acquisition du bâtiment et je suis tombé en amour avec le potentiel du bâtiment et le potentiel pour servir la communauté, principalement les enfants. Du côté de l'École d'art, moi, ce qui m'a attiré vraiment, c'était le côté pour les enfants, mais le côté artistique, parce que j'ai été impliqué dans d'autres organismes à Sutton, du milieu artistique, et j'aime bien y participer. On partait avec un building qui était en pas très bonnes conditions. On partait avec des idées. Anne-Marie, la créatrice de l'école, a des idées, a toujours beaucoup d'idées, et voyait tout le potentiel de cet endroit-là, tout ce qu'on pouvait y faire.
Donc, comment est-ce que la ville a changé, en fait, depuis que l'École d'art rayonne maintenant au cœur?
Ben, je pense que l'École d'art est venue en complément aux autres organismes culturels avec une offre totalement différente parce que chaque organisme a sa spécificité et était capable d'offrir des activités culturelles ou des expositions. L'École d'art arrive avec un volume extraordinaire pour faire de grandes expositions, autant pour faire des activités pour les enfants. Le petit salon du livre qui, d'année en année, grandit, c'est incroyable, le nombre de visiteurs. On a eu une grande exposition l'automne dernier où est-ce qu'il y a eu plus de 1500 visiteurs. C'est des expositions qui ont fait découvrir l'artiste Peter Schumann à tout le monde, qui était de Bread and Puppet, que personnellement, je ne connaissais presque pas avant l'exposition. J'ai connu ça quelques mois avant l'exposition. Et j'étais renversé de voir toute l'œuvre, toute la vie qu'il a consacrée au développement de son mouvement, parce que c'est plus un mouvement qu'autre chose, Bread and Puppet. C'est pas juste un côté artistique.
Merci. Ouais, c'est super intéressant. Tu as été récemment reconnu par la ville de Sutton, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler, en fait, de ton prix sur le bénévolat?
Oui, c'est très intéressant que la ville organise depuis quelques années la reconnaissance des bénévoles en organisant une soirée. Les organismes peuvent présenter un candidat pour être reconnu pour sa participation citoyenne dans les différentes activités communautaires. Moi, j'ai été reconnu pour l'École d'or grâce à mon implication dans les dernières années. En plus d'être membre du CA, ben, j'étais un bénévole les bras pour servir, pour monter, démonter sur les différentes idées de projet. Ben, je viens donner mon point de vue. Ce qui était super le fun de cette soirée-là, c'est que plusieurs personnes ont été reconnues et j'ai eu l'occasion de parler au micro pour mentionner que les gens qui sont bénévoles, souvent ce sont les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont bénévoles à l'École d'art, mais sont bénévoles avec d'autres organismes. C'était les mêmes personnes. Et il y en avait de tous les âges. Il y en avait des gens beaucoup plus âgés. Il y avait un monsieur de 90 ans qui était reconnu. Et il y avait quelques jeunes. J'espère que dans le futur, on va avoir beaucoup plus de monde qui vont s'impliquer dans les divers organismes. Puis on cherche toujours des bénévoles à l'École d'or. Merci de m'avoir interviewé, puis bonne continuité à l'École d'or.
Oui.
Aujourd'hui, je sens le silence qui m'envahit, mais j'écris une chanson contre la folie, pour des gens qui se battent dans la rue, pour un petit endroit, pour un petit endroit. Grandit quelques personnages qui sont devenus aujourd'hui la raison qu'on se tue à se prendre pour ennemi. Et c'est ainsi qu'on s'habitue à ce que tout soit détruit dans ce petit endroit, dans ce petit endroit. Et je repense à vous, à ceux qui restent debout, ensemble, plus fort que tout, c'est ce qu'il reste.
J'ai également eu l'opportunité de rencontrer François Donegan, qui a généreusement assumé le rôle de responsable des bénévoles lors du petit salon du livre à l'École d'art de Satine. Autour d'un café, nous avons échangé sur son expérience dans la coordination des équipes bénévoles et ses motivations personnelles à s'impliquer bénévolement. Je vous invite maintenant à écouter cet entretien.
Bonjour, mon nom c'est François Donegan. Je suis semi-retraité, tout nouveau. Alors, pour redonner, parce que c'est toujours bien de redonner, je me suis porté volontaire pour venir à l'École d'art de Sutton. Je connais l'organisation, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça un environnement accueillant, un environnement avec plein de joie. Alors, c'est le fun de pouvoir rencontrer plein de monde. Puis en même temps, ben aider ceux qui en ont besoin. Puis je dis bien, c'est l'organisation qui est dans un mode de départ. Alors, de donner, c'est sûr que c'est bien. Puis quand tu donnes, c'est sûr que tu reçois à un moment donné.
Absolument. Ouais, absolument. Et puis, comme c'est une OBNL, l'organisation a tellement besoin de gens comme vous, de bénévoles qui s'impliquent et en fait qui permettent de créer des événements comme le petit salon. En fait, vous gérez une quarantaine de bénévoles.
Pour tout l'événement, oui, il y en a 40, mais par journée, on est environ une quinzaine. C'est une coordination. J'ai eu la chance dans ma vie de coordonner des gens. Alors, c'est facile de coordonner les gens, de voir s'ils sont bien à leur position, s'il leur manque quelque chose, de voir à les remplacer pour qu'il y ait des pauses, de s'assurer qu'il y ait un bien-être au niveau des bénévoles. Les gens, ils l'apprécient, mais je crois aussi que les bénévoles qui sont ici aiment ça parce que ils voient au bénéfice de la cause. Puis des fois ça leur fait sortir de leur tanière.
Ouais,
c'est ça aussi. On voit que des gens, c'est une communauté ici, hein, Sutton. Alors tu vois qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de monde, alors ils en profitent. C'est comme avant, on allait à l'église, puis on faisait la jasette sur le parking une fois que la messe était terminée. C'est un peu la même chose dans un autre aspect.
Oui, absolument. Je pense que ça parle de l'importance du bénévolat et pour l'école et aussi pour les gens qui s'impliquent. Finalement, comme vous l'avez dit, quand on donne, on reçoit aussi.
Ouais.
Et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de l'importance du bénévolat dans votre vie?
Pour moi, le bénévolat, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Mais mon père, à un stade, il en a fait beaucoup parce qu'il pouvait plus travailler. Et il s'est donné cœur et âme pour un organisme un peu comme ça ici. Il l'a mis en place ensuite de ça. Ils ont mis en place une garderie, ils ont mis en place une bibliothèque, ils ont mis en place une friperie. Tout le côté communautaire, puis il a fait ça pendant une quinzaine d'années. Puis il était fier de le faire. Quand tu le fais, c'est parce que tu as le goût de le faire. Ce qui est important, ce qui est le fun, c'est que quand tu as le goût de le faire puis que tu le fais dans un environnement qui apprécie ce que tu fais, c'est encore merveilleux. C'est comme rajouter une couche de plus. Fait que c'est le fun. C'est un bel esprit de vie pour ça. Puis je suis content de le faire. Je le fais pas parce que mon père le faisait. Je pense que on a le même sentiment. Ouais, il est parti, ça fait longtemps, là. C'est ça qui est. On a le même sentiment de le faire parce qu'on aime la communauté, puis on aime faire des choses. On aime redonner, puis c'est très riche.
Suivant mes rencontres avec des membres engagés de notre communauté, j'ai échangé avec Stanley Lake et Almut, qui habitent tout près de chez moi. Tous deux ont activement contribué bénévolement à plusieurs événements culturels importants, tels que le Tour des Arts et Sutton Jazz. Almut m'a soulevé des points fascinants concernant l'évolution intergénérationnelle du bénévolat. Voici un extrait de notre entretien.
The Tour des Arts is an event that keeps changing because members leave, members take a sabbatical, new members come on. So it's a continuously regenerative process. Mm-hmm. And also the younger generation, I think that
like my mom's generation. My mom volunteered her whole life in a meaningful way. And that generation is gone. And the young generation, the now young generation, they work so hard. They don't have time to volunteer.
Yeah, bills are high.
Bills are high, and the budget is basically based on if you're a couple, then two people having an income. That is, that was not the case when my mom, my dad did the income for the family, whether it was enough or not.
Yeah.
And so this volunteer, this very strong volunteer force is disappearing.
Mm-hmm.
And how to replace that is, you basically have to find finances to hire somebody to do this. And I think this is where things have to go.
For management.
Yeah. Management-wise, yeah.
Interesting.
Although we are in the Sutton Jazz, which has been going for 24 years,
amazing.
Most recently we have a new board of directors, which is including a younger group of board members who are being very active and see they're actually somewhat surprised at where the Sutton Jazz Festival is with so minimal support of what we're able to do. So they see where it is, they're proud of it and complimentary, but want to move it a further step up in principle. In particular, they want to see the salaries that we pay the musicians elevated. So we're all in favor of that.
Yeah,
so
of course.
There has been a big effort by one of the board members to go out and get more grants, to write more grants. Another member, they're both 27, just putting in a lot of time on the website and promoting things, and and both having more insight of younger musicians in Montreal. I'm more familiar with the older established musicians. So this year we'll have a real nice mix between younger and older established. And also, without even thinking about it, but after I did the program, eight of the main stage events, they're women-led groups.
Amazing.
So that it just came about.
Year.
It wasn't a conscious effort.
Yeah.
But then I saw that a lot of things I do are not conscious.
Yeah, it's amazing. Yeah, leading the way.
Wouldn't you
instinct
agree?
Intuition.
It's instinctive. and as is my cooking.
I can say that's very good. I'm the beneficiary, so I appreciate it.
Yeah, the cooking and the creative process. And sometimes I step back. Like, a great example is we're building our kiln, rebuilding it.
Yeah.
And so what should be the size of the chimney? And so I went online to see, you know, a certain size kiln demands a certain size chimney. And I was spot on with what I said it should be and the height and the diameter. And I'm just wondering, how did I know that? So earlier days, earlier information. That seemed to be
amazing.
It is amazing. You don't know.
You gotta trust yourself.
Lucky, I would say fortunate. I'd be very fortunate.
Yeah, it's crazy.
So yeah, we've talked about like so many interesting things. And I'm wondering, so you've worked a lot engaging young people in different ways, right? In the arts, in visual arts, in music. Do you have any other ways that you believe are really effective in bringing youth and inspiring them to pursue careers in visual arts or music?
Well, with the jazz, and Alma can talk about the Tour des Arts, but with the jazz, certainly we, funding permitted, want to go into the schools, the elementary, primary schools, and offer two programs, the history of jazz, basically presented by the Dixieland group, so early jazz, and we lead on into different genres of jazz. And so that's a primary, again, the hope is that one person in that room will say, whoa, I want to play the tuba, or I want to play the trombone, whatever, that they'll be excited.
Outreach.
Critical, because, you know, the music programs are, all the arts and music programs, you know, are cut back.
Yes.
So in that aspect, we want to do that more. We just need funding. So to do that, and the Tour des Arts, I guess you could talk about that.
Well, I would say exposure is a big one.
Okay.
And for me, what's also important, I remember so often hearing from kids, oh, I did this wrong, or I did it badly, or this is how you have to do it right. And I think in arts, for me, the biggest thing to learn is you have to discard the idea of wrong.
Yeah.
In order to explore, you have to allow yourself to fail, to go wrong, to be embarrassed, to be laughed at. You know, it's just part of the deal. And at best, you learn to laugh along or to laugh at yourself, to learn and like making a mask. Coming from theater, a mask for theater, you want something that has different expressions from different angles, or rather allows for this juxtaposition of the body, the position, how the body sits to the mask. It creates a different impression and different expression. And so often when I model something, I have to remind myself, step away from it, look at it from a different angle, and it might not be what you thought it was. And then it's a question, am I okay with that? Can I follow that? Do I have the tools and the insights to be able to follow that? Or do I try to impose my first idea, and am I successful or not? Mm. So this is for me a big part of the game. And I think this idea of there is a right way for certain things, yes.
Technique.
technique, exactly. Mm. Unless you want to then change, go away from. But yes, but the moment you come to exploration means that you will not necessarily be successful.
Right.
Just to elaborate on that, there's two things. One, I had a drawing teacher, and she said, I'm not going to teach you how to draw. I'm going to teach you how to see.
Yes.
Which
like
is
that.
So, it stayed with me my whole life.
Yeah.
And the idea of wrong or right.
Yes.
So recently I had two nieces visiting, and the thing I wanted to impart on them was not to think that their work, I'll take it at a personal thing, my work is bad, but to look at the work. Let's say for me, I will go into Almut's studio. She's a master of the face, the mask. And so if I am not getting something, rather than saying, oh, my work is not as good as hers, you know, this comparative, competitive thing, I will go in and learn from what she's doing, go back and try to do that to improve, as opposed to, this is terrible what I'm doing, let's not do it anymore, as opposed to, what can I learn from looking, and then try to apply that, what I've just seen.
To your own, in your own style, in your own way of doing things.
No matter, even in music, it's fascinating.
Yeah.
The whole idea of jazz is, at some point you want to be original, but it's like speech.
Yeah.
How do children learn speech? By imitating their parents, the environment. So it's the same thing with jazz. How do you learn the idiom is by listening to the great masters and their licks, the little phrases that they use. Learning those phrases, incorporating them, and then doing your thing on top or integrating all of that.
Responding.
So that it becomes foundational, what you're listening to, and then it becomes, you absorb it, and then hopefully you're putting out that plus yourself.
With your own take on it, or your own story on it, or something. Just using it to tell your own story.
So it goes back to foundation. You need that foundation.
Yeah.
And then you can. I remember teaching, and I had a student. He was from. He was a great dancer, jeweler, and potter at university. And I invited him to come in to give a demonstration because he had been trained in more of an Eastern approach to. Which meant that he threw off-centered. As opposed to centering the clay, and my students who had trained so hard and rigorously to get the centering done, know how to center, know what center is, create the pot. He came in and did, it was totally not centered. And my students were like, oh, well, he doesn't even know how to center. He created a beautiful piece. And I said, he knows center so well that he can work off center, which is a great, great revelation for everybody, including myself, you know, to verbalize it.
Yeah.
So.
Beautiful.
Yes, I think for me, it's like the message you get from a Pilates course that everybody's doing the exercise. Some are doing it in a much harder way, but everybody is working to their own max and need and ability.
Yeah.
And I guess that's for jazz. It's kind of the thing too. You all have that. You share the structure, but you do your own thing within it.
Love that.
Your own, I find that very beautiful.
And the musicians we play with are so accommodating.
Yeah.
You know, so, well, in the sense that some are very, very, very high end, well trained, and yet they'll embrace what your efforts, and they might talk to you a little bit about you know what you could be doing. So I'll take lessons when I hear someone really great. I'll take lessons. I want them to listen to me. I want them to suggest what I could do differently. And it's very, very positive on my playing. So I can learn from them, but I can still play with them, and they're accepting. And they'll nod, oh, that was good.
Yeah.
Or they'll nod not. So it's interesting, but the acceptance is pretty, going back to competitiveness.
Yeah.
In that milieu, there's really not a lot of competitiveness. Do your job, know the form of the jazz song that you're playing.
And give each other space.
And give each other space and support harmonically.
Yeah.
You know, yeah.
Okay.
J'ai eu le plaisir de discuter avec Jenna, 7 ans, sur le bénévolat et le sentiment qu'elle a quand elle redonne à la communauté.
Hi Jenna, welcome to the show.
Mm-hmm.
I wanted to ask you a question today. Okay.
Do you do volunteering with your parents sometimes in the community?
Yeah.
What kind of things do you do?
Sometimes we make presents, and I wanted a cat with my dad to do boxes of food for people.
How did you feel when you were making food boxes for people in your community?
Happy.
Why did you feel happy?
Because I feel happy. So it's like nice to give them food that they need to survive.
Yeah. What else do you like to do for free to help people out in your...
Sometimes I like to give away clothes to people that are way smaller than me.
Yeah.
And sometimes I give, make presents. One time we brought little erasers and bendy pencils for everybody in the whole class.
How does it make you feel to give people presents?
Happy. Because okay. They're like, I want this one. It's so nice. And they like it so much.
When you're helping out in the community kitchen, like doing dishes or bringing cups of water for people,
and
how do you feel?
Happy. Because there is some people that they had a broken leg, so, and that's it.
Do you think more people should give up their time to help others in their community?
Yeah.
Why?
Because it's nice, and if people want to be nice to other people, if they're mean, nobody will want to be friends with them. So if like you said, hey, I want this cup, you can have it before, and then they take it away from the person's hand. Then the person that's serving the cup doesn't have want to give that person anything.
You know, when the adults grow up, they get really busy, right?
Yeah.
And it's hard for them sometimes to volunteer and help out people around them because they're busy with their family or they're busy working to pay their bills. What do you think that those people should do to have more time to help out different places like the art school or the CAB?
Last year, I gave my teacher a present. I made a book for her. And sometimes this year, I gave like just random presents for the teacher. Actually, every single celebration. For example, when it was Valentine's Day, I gave him a Valentine's Day present. I did that with all my teachers.
In this world, everyone wants to be happy. So what do you think they should do to be happy?
Giving people stuff and taking care of people.
Does that make you happy?
Yeah.
Okay. Nice to meet you, Jen.
Finalement, j'ai eu le plaisir de discuter avec Mathilde, directrice du Centre d'action bénévole de Sotin. Partenaire de longue date avec l'École d'art, le CAB joue un rôle essentiel dans le tissu communautaire local.
Salut, donc moi je m'appelle Mathilde Delorme, je suis directrice du Centre d'action bénévole de Sutton. Ça fait maintenant 2 mois que je suis en poste, j'ai repris la direction générale suite au départ de ma prédécesseuse Daphné et je m'occupe maintenant de gérer tout l'aspect opérationnel du CAB, donc aussi bien les ressources humaines parce qu'on a une équipe de 5 personnes qui font toutes des choses très différentes les unes des autres, donc moi je m'occupe de coordonner un peu toute cette belle équipe et aussi de gérer tout l'aspect financement, donc gestion du budget, des dépenses, mais également de trouver des subventions pour qu'on puisse continuer à offrir tous les services et les activités qu'on propose à la communauté de Sutton et Abercorn.
Est-ce que tu peux me parler un peu plus du centre d'action bénévole, donc le CAB à Sutton?
Oui, absolument. Donc le CAB, on est un centre d'action bénévole, donc toutes nos activités sont vraiment porté et soutenu par l'action bénévole. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tout un réseau de bénévoles qui viennent donner de leur temps pour assurer nos services et nos activités. Donc ça, c'est en plus de notre équipe administrative. Notre mission, c'est vraiment de venir en aide, en fait, de proposer des choses pour les populations un peu plus vulnérables ou à risque d'être en état de vulnérabilité à Sutton et Abercorn, et notamment les familles et les aînés. Donc, on se spécialise vraiment dans ces deux groupes d'âge. Donc, les aînés, c'est les 50 ans et plus. Et les familles, ça va être vraiment des parents avec des jeunes enfants 0-5 ans. Le Cap Sutton, c'est un lieu qui est vraiment rassembleur. On est au cœur de la communauté de Sutton, donc on est toujours en lien avec plein de partenaires communautaires, dont l'école d'art, justement. On a des super belles valeurs d'entraide, de respect, de bienveillance, de solidarité, d'inclusion, mais aussi de valorisation des personnes, parce qu'on pense que chaque personne dans la communauté devrait être reconnue et pouvoir avoir sa place. On a effectivement une collaboration avec l'école d'art par rapport au camp d'été. C'est pour les places subventionnées. Donc, l'école d'art reçoit de l'argent généreusement, notamment de la Fondation Boulanger Bédard, mais aussi probablement d'autres partenaires financiers pour offrir à la population certaines places à leur camp gratuitement. Ça fait en sorte que des enfants d'un milieu un peu plus défavorisé peuvent accéder aux mêmes services, aux mêmes activités que des enfants de familles un peu plus aisées. Et nous, le CAB, on est vraiment un partenaire là-dedans parce qu'on a une ressource famille, Jen, notre intervenante de proximité auprès des familles, qui connaît super bien les familles défavorisées de la région, étant donné qu'elle fréquente notre banque alimentaire et d'autres des services qu'on peut offrir. Donc, Jen est à même de pouvoir rencontrer ces familles, sonder leur intérêt par rapport au camp d'été et de pouvoir référer ces familles à l'école d'art afin que leurs enfants puissent bénéficier de ces places subventionnées. Donc, c'est vraiment une super belle illustration de comment des organismes peuvent travailler ensemble pour proposer quelque chose à la communauté de façon hyper ouverte et bienveillante.
Je pense que pour toi aussi, tu as une connexion particulière au bénévolat. Comment est-ce que tu es rentrée dans ce monde-là?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis française à l'origine. Je pense que ça s'entend probablement. Mais j'ai l'impression qu'en grandissant, je me rendais pas forcément compte que le bénévolat, c'était quelque chose en soi. Je pense qu'on participait quand même à la vie du village, mais je m'en rendais moins compte. Mais c'est quand j'ai vécu un an aux États-Unis, je suis allée dans une high school américaine pendant un an, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'impact du bénévolat, de la communauté, parce que souvent les communautés anglophones sont très basées sur l'entraide, sur le social, et ça a comme allumé une petite étincelle en moi. Et quand je suis ensuite venue faire mes études à Montréal, j'ai souhaité m'impliquer, donc j'ai fait partie du service de gestion des urgences de la Croix-Rouge. J'ai donné de mon temps pour des événements pour les sans-abri, etc. Ça m'a vraiment plu. Puis ensuite, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, j'ai eu moins de temps à donner. Et donc, quand j'ai déménagé dans la région, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais pas beaucoup d'opportunités d'offrir de mon temps. Et c'est là que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Moi, je travaillais en entreprise. Donc dans une entreprise en technologie complètement différent du milieu communautaire, et j'ai décidé donc de venir prendre la direction d'un OBNL parce que c'était une façon pour moi de combiner un peu le bénévolat et l'aspect professionnel. Donc même si j'avais pas le temps, parce que j'ai aussi un jeune bébé d'un an et demi. Donc forcément, le temps nous manque quand on est jeune parent. Donc si j'avais moins de temps à donner, je me suis dit, je vais pouvoir offrir à ma communauté à travers mon travail et ma profession. Donc je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir, même si c'est pas techniquement du bénévolat, de pouvoir quand même offrir cet apport à la communauté.
Dans les bénévoles que tu rencontres, je sais qu'il y a des motivations complètement différentes. Il y a des gens qui veulent s'impliquer pour apprendre, d'autres pour faire du réseautage, d'autres parce qu'un sentiment d'obligation vers la société. Pour toi, ouais, en fait, qu'est-ce que tu vois comme motivation ou bénéfice du bénévolat?
Oui, c'est une bonne question. Au CAB, on remarque qu'il y a différents profils bénévoles. Puis un profil qu'on a remarqué récemment, c'est qu'il y a beaucoup de nos bénévoles qui souhaitent s'impliquer et faire du bénévolat un peu pour briser leur isolement. Donc, dans un sens, ces personnes-là sont un peu aussi nos bénéficiaires de nos services, puisque nous, on vise vraiment à offrir des services pour les personnes en situation de vulnérabilité. Puis l'isolement, c'est un énorme facteur de vulnérabilité chez les aînés. On remarque énormément qu'il y a des personnes qui veulent s'impliquer, surtout parce que ça leur permet de se donner
donner un peu une excuse, mettons, ils osent pas forcément accéder à nos services par la porte d'entrée, si tu comprends l'image, mais ça leur donne un peu une excuse de dire, oh, ben, je vais venir aider, être bénévole, puis dans le fond, eux, ils bénéficient un peu de nos services à travers ça.
Ouais, c'est un vraiment bon point aussi, ouais. Que quand on se sent isolé, puis on veut rencontrer des gens avec des intérêts communs, c'est vrai que le bénévolat, c'est tellement une bonne porte d'entrée. Absolument. Pour se faire des amis, pour rencontrer des gens avec les mêmes valeurs que nous, même qui sont au sein de notre communauté.
Ouais, tout à fait. Super bonne manière de pouvoir rejoindre et regrouper tout ce beau monde. Moi, ce qui me motive, c'est vraiment la connexion humaine. Donc, je dirais que pour moi, le bénévolat, c'est vraiment d'être au plus près des humains, des personnes. Donc, quand je fais du bénévolat, c'est vraiment pour avoir cette connexion humaine, puis pouvoir échanger. C'est ça qui me nourrit le plus. En fait, quand on fait du bénévolat, on est à même de rencontrer des gens qui viennent de milieux totalement différents du nôtre. Et personnellement, je trouve que c'est ça qui fait de nous des meilleurs personne.
Absolument. Et en fait, à travers mes conversations pour cette émission, quelqu'un m'a apporté un point super intéressant, en fait, qu'il y a vraiment eu un changement de génération entre la génération, par exemple, de ma grand-mère, qui était, elle était éduquée à l'université, mais elle était aussi, après s'être mariée, en fait, elle vivait très bien avec un salaire. Mm-hmm. Et donc, c'était une bénévole professionnelle. Elle était dans tous les musées, dans les organisations. Elle passait son temps à s'impliquer. Et il y a toute une génération maintenant qui est très âgée. Comment est-ce qu'on renouvelle ce besoin de bénévoles pour remplir les besoins de la société dans un monde où maintenant on a beaucoup plus de pression financière? Et je pense que les jeunes peut-être de la vingtaine, trentaine sont moins habitués en fait à le bénévolat.
Absolument, tu as tout à fait raison. On voit d'ailleurs un gros changement dans le profil de nos bénévoles. Comme tu dis, on a des bénévoles qui sont avec le CAB depuis des années. Nous, on a fêté nos 40 ans au CAB il n'y a pas longtemps. Il y a des bénévoles qui sont là depuis les débuts, donc ça te donne une idée un peu de leur génération. Et ça, ce sont des bénévoles qui vont traiter, comme tu le dis, un peu leur implication comme un travail. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être là semaine après semaine, de façon hyper fiable, hyper régulière, très récurrente. C'est des personnes qui ont un sens du devoir et du travail qui est très important. Et on a en contraste des personnes un peu plus jeunes qui traitent le bénévolat un peu plus comme un peu comme un hobby.
C'est tout à fait valide.
Et en fait, c'est pas du tout pour minimiser leur implication, parce que toutes les implications sont les bienvenues, mais ça fait en sorte qu'ils veulent s'impliquer de façon un peu moins fréquente et un peu moins récurrente. Donc, ils vont être intéressés à faire du bénévolat pour des activités spéciales qu'on organise, donc la fin de semaine, etc. Mais c'est plus difficile à gérer quand on a un centre d'action bénévole, parce que nos services et nos activités, on essaye de les offrir de façon fiable. Donc, c'est sûr que ça, c'est des profils de bénévoles qu'on a plus de mal un peu à intégrer dans nos services.
Qu'est-ce que tu penses qu'on a à apprendre comme plus jeune génération? Qu'est-ce qu'on a à apprendre en fait de ce que ça peut nous rapporter le bénévolat? Que c'est pas juste donner de notre temps, c'est aussi de recevoir.
C'est une super bonne question. Je pense que je reviendrai un peu à mon point de tout à l'heure en mentionnant que pour moi, ça permet un peu la connexion humaine. Puis on est quand même dans une ère où les gens sont très déconnectés les uns des autres, beaucoup parce qu'il y a les réseaux sociaux, Internet. On a tendance un peu à perdre le côté connexion humaine. Et ça fait en sorte que toutes les belles qualités qui sont rattachées au relationnel, donc l'empathie, l'entraide, etc., on le perd un peu. Donc je pense qu'en faisant du bénévolat, c'est vraiment une façon de se reconnecter aux humains, de laisser de côté un peu le monde virtuel, puis de revenir dans la réalité et de consolider ces belles qualités d'empathie et de juste de mieux comprendre l'autre, en fait.
Ouais. C'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
Ben, moi aussi, Ayona, merci beaucoup d'être venue.
Pour un petit endroit où on grandit.
ralentit quelques personnages qui sont devenus aujourd'hui la raison qu'on se tue à se prendre pour ennemi. Et c'est ainsi qu'on s'habitue à ce que tout soit détruit dans ce petit endroit. Dans ce petit endroit. Et je repense à vous, à ceux qui restent debout, ensemble, plus fort que tout. Ce qu'il reste de nous. Autrement dit, c'est la population entière qui subit ce que ces dirigeants sans tête ont choisi pour régler leur conflit et gonfler leur égo infini. Dans ce petit endroit, dans ce petit endroit. Et je repense à vous, à ceux qui restent debout, ensemble, plus fort que tout, c'est ce qu'il reste. Pense à vous, à ceux qui restent debout, ensemble, plus fort que tout, c'est ce qu'il reste de nous, c'est ce qu'il reste de nous. Finalement pris avec ça pour la vie. Mais j'écris une chanson contre la folie pour des gens qui se battent dans la rue.
Restez à l'écoute de Portraits vivants pour poursuivre la découverte de celles et ceux qui font vivre l'art sous toutes ses formes dans notre région.
Solitude danser avec un vieux rêve oublié, et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur.
Ensemble ils sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. De l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler.
Aujourd'hui je vois la vie avec les
yeux du cœur. Suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.